Je voulais poser une question.
Oui.
Pourquoi David dit « Dans le péché, ma mère m'a conçu » si c'est, si c'est une relation normale.
Bonne question. Qui veut répondre ?
Il me semble que ça paraît le sens du texte. Maintenant, il y a peut-être quelque chose d'autre chose. Je crois qu'il faut se souvenir que David dit cela dans sa confession, après sa chute morale, n'est-ce pas ?
Psaume 51.
Je crois qu'on est quand même dans un psaume où David est vraiment au fond du trou. Donc.
Et il ne dit pas ça pour justifier son acte. C'est plutôt une constatation qu'il fait. J'ai mentionné tout à l'heure la polygamie. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques réflexions à ce sujet ? Je pense que, comme moi, tout lecteur de la Bible a été, autrement dit, à quelques moments de sa vie, a été frappé de voir que déjà les mecs et puis, qui est mentionné, et puis tout au long de l'Ancien Testament, on voit la polygamie qui est installée. Et ce qui nous surprend le plus, c'était peut-être pas tant que la polygamie soit installée, mais c'est que Dieu supporte cela. Et je dirais même que ça va plus loin, c'est que tous ces grands hommes de Dieu, en tout cas pour la plupart, qui ont eu une vie particulièrement bénie avec Dieu, ont eu plusieurs femmes. Je ne sais pas si on peut avoir quelques réflexions à ce sujet.
Dans la polygamie, on voit tout, en fait, le véritable cœur de Dieu qui n'a jamais créé l'homme comme un robot et qui a toute puissance, mais qui laisse faire l'homme. Et c'est un exemple où l'on voit que quand même dans la création, c'était quand même clair, on l'a rappelé tout à l'heure, mais Dieu supporte ce que l'homme fait. Et je crois que c'est un exemple pour nous qui sommes très souvent intolérants au maximum. On doit supporter l'autre, même si l'autre fait quelque chose qui n'est pas bon, on peut lui dire, lui rappeler. Et je pense que Dieu le rappelait puisqu'il le disait, l'homme n'aura pas beaucoup de femmes. Et comme beaucoup de choses, mais par contre, on voit qu'il n'a pas forcément arrêté même ses serviteurs lorsqu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas tout à fait selon lui. Dans le Nouveau Testament, là, il remet toutes les pendules à l'heure, on pourrait dire, et beaucoup de commandements qui avaient été plus ou moins oubliés dans l'Ancien Testament ou déformés sont remis à jour et au clair dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup moins de choses dans le Nouveau Testament qui sont dites, mais par contre, elles sont beaucoup plus directes hein, et beaucoup plus précises. Mais je crois que c'est surtout le support de Dieu quant à l'homme qu'il a créé. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous marquer, nous, et dont on doit suivre l'exemple, la tolérance. Pas du péché, mais de l'autre.
Vous n'avez pas ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le sceau du Saint-Esprit, qui nous met dans un état un petit peu distinct, même quant à nos corps, et qui doit nous permettre normalement de tenir cette règle qui nous est donnée par le Seigneur dans le Nouveau Testament, que Daniel a rappelé, un homme, une femme, et règle qui court dans tout l'Ancien Testament, mais dont on voit bien, comme Samuel vient de le dire, qu'elle n'était pas bien respectée, et même par les plus grands hommes de Dieu, si l'on peut dire. Donc il y a un état qui est distinct et qui est propre à l'état chrétien, semble-t-il. Mais d'autres frères pourront dire quelque chose à ce sujet. Pour le psaume 51, il n'y a pas de choses supplémentaires à dire, sinon qu'on voit bien comment David se trouve dans une situation où il est amené à véritablement prendre conscience de ce qu'il est. Comme ça peut nous arriver après une chute, qu'à présent on peut penser que tout est bien allé, et puis finalement on se rend compte qu'on n'est pas meilleur que les autres, et c'est ce que David exprime là, c'est... J'ai besoin de pardon, j'ai besoin de salut. Il naît à peu près sur la terre 4 personnes par seconde. Et cette humanité a besoin que Dieu se penche sur elle. Et chacun de ceux, de celles qui naît, a besoin de trouver Dieu, trouver le salut. Sinon, c'est la perdition éternelle. Dieu sait comment il aura parlé à chacun. Et David l'exprime là, me semble-t-il.
Maintenant, vis-à-vis de la polygamie, cela se passe dans nos pays, on n'a pas de problème, mais il faut reconnaître que dans les pays où des frères ont plusieurs femmes, avant la conversion, le problème est quand même différent, et beaucoup se posent des questions, et les réactions, c'est vrai, sont diverses vis-à-vis de ce... De cela. Hein. Certains pensent qu'après, ils ne peuvent avoir plus qu'une femme à eux, avec qui ils entretiennent des relations, et les autres, eh bien, par contre, ils ne les laissent pas, ils s'occupent d'elles, ils subviennent à leurs besoins, mais ils n'ont plus de relations, donc c'est une déposition. Il est vrai que pour être ancien dans la Bible, il est bien dit clairement que l'homme devait avoir qu'une femme.
Quant à la responsabilité personnelle dans ce domaine, dans le domaine de la convoitise, au chapitre 31, Job dit « J'ai fait alliance avec mes yeux, et comment eussé-je arrêté mes regards sur une vierge ?» Autrement dit, il avait arrêté dans son cœur de ne pas regarder une autre femme. Et donc, cette démarche donc, qu'il avait eue et qu'il dit devant ses amis et qu'il dit devant l'Éternel, que c'était vraiment quelque chose qui... une conviction et... quelque chose qu'il avait décidé, comme Daniel et ses amis avaient décidé de ne pas manger des mets délicats du roi, eh bien Job avait décidé en lui-même de ne pas regarder une belle femme. Quant à l'enseignement de Paul aux Corinthiens, il y a un verset quand même qui, on en a lu une partie, 1 Corinthiens 7. « Or pour ce qui est des choses au sujet duquel vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme, mais... à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son mari à elle. Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû et pareillement aussi la femme au mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari. Et pareillement aussi, le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. » Autrement dit, ce verset nous montre que, on peut le comprendre comme cela, que le mari s'occupe à donner du plaisir à sa femme, et la femme s'occupe à donner du plaisir à son mari. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste.
Dans ce chapitre que Jean-Louis vient de nous lire, on voit bien que le mari et la femme sont placés sur un plan égal. Il n'y a pas un qui domine sur l'autre ou un qui est dominé. Et quand on parle de polygamie, on voit toujours que c'est un homme qui a plusieurs femmes. Est-ce qu'on voit des fois une femme qui a plusieurs maris ? La relation sexuelle, disons, la relation de l'homme avec sa sexualité est différente de la sexualité de la femme, parce que l'homme a souvent des désirs plus pervers que celui de la femme, et souvent il y a des choses qui sont dites pour la femme qui ne sont pas dites pour l'homme, des choses qui sont conseillées à l'homme et pas à la femme, comme dans ce verset bien connu où il est dit à l'homme d'aimer sa propre femme, il n'est pas dit à la femme d'aimer son propre mari. Pourtant la femme aime son mari, et ce n'est pas contraire à la Bible. À la femme, il lui est dit d'être soumise. Il ne lui est pas dit d'être servile. Il lui est dit d'être soumise, car si son mari respecte sa partie du contrat, c'est-à-dire si le mari aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Assemblée, la part est placée très haut, c'est-à-dire d'un amour parfait, d'un amour qui peut tout, d'un amour qui va jusqu'à la mort, alors la femme, il lui est demandé d'être soumise. Mais je pense qu'il n'y a là aucune difficulté à être soumise à une femme qui aimait d'un tel amour, une femme qui aimait par quelqu'un qui la respecte, par quelqu'un qui cherche son propre plaisir, par quelqu'un qui l'écoute, par quelqu'un qui veut son bien. Cette femme-là contesterait-elle quoi que ce soit ? C'est pour ça que je me suis souvent demandé pourquoi il est conseillé à la femme d'être soumise. Il me semble que la première partie du contrat est déjà nettement suffisante. Si l'homme aime comme le Christ a aimé l'Assemblée, tout le reste semble couler de source.
En considérant la position de l'homme et de la femme, il faut considérer cela, me semble-t-il, sous deux côtés différents. Il y a côté spirituel, et les deux sont à égalité devant le Seigneur, c'est dit aussi. Maintenant, à l'origine, Dieu a distingué ce qui est la part de l'homme et ce qui est la part de la femme. Je pense que c'est probablement des résultats de la chute. Voilà, Dieu l'a voulu ainsi, et on doit se courber devant la volonté de Dieu. On n'a pas à chercher, à le discuter, n'est-ce pas ? Et c'est très frappant de ce qu'on voit même dans l'Écriture, des femmes qui ont voulu sortir de la position que Dieu leur avait faite, eh bien, ça ne marche pas en général. C'est quelque chose d'évident dans l'Écriture.
Mais si l'on peut dire cela à propos de la femme, nous pouvons aussi dire cela à propos de l'homme qui doit tenir compte de sa position à lui. Dans le christianisme, on a un verset qui fait le lien entre ce que Samuel vient d'exposer, les deux côtés, le côté spirituel et le côté, disons, physique, matériel. On trouve ça dans la première épître de Pierre, un verset bien classique, n'est-ce pas, comme nous disons aisément, 1 Pierre 3, verset 7. De même, vous, Marie, vivez avec elle, avec intelligance. On pourrait mettre entre parenthèses, comme avec une nature plus délicate, féminine. Ça, c'est pas proprement lié à la chute. C'est constitutionnel. C'est avant la chute même. N'aurait-il jamais eu de chute, la femme est cela. Et c'est pas du tout dévalorisant, pas du tout pour elle. La chute a ajouté autre chose, et en particulier les souffrances liées à la naissance, c'est comme il est explicité en Genèse 3, mais la différence entre l'homme et la femme est quelque chose de constitutionnel et physiologique qui est explicité là, une nature plus délicate, féminine, qui est autre. Et on pourrait lier, de même, vous, Marie, vivez avec elle avec intelligence, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritier de la grâce de la vie. C'est-à-dire que c'est peut-être difficile à dire parce qu'on ne le réalise pas comme il le faudrait, c'est que la femme chrétienne que Dieu m'a donnée, c'est quelqu'un que je dois traiter comme un chrétien. Et c'est vrai aussi à l'inverse pour la femme, mais alors ça sanctifie, comme on le dit, et l'Écriture le dit, véritablement les relations. Ferais-je, on le dit en tremblant, ferais-je à celui ou à celle qui m'accompagne toute la vie ce que je ne ferais en aucune manière à un de mes frères ou une de mes sœurs dans la foi? Voilà le genre d'interrogation qu'il faut nous poser. Le genre de question qui place les choses à... On dira c'est un niveau très élevé, c'est difficile à tenir, mais c'est la seule manière finalement de vivre un mariage chrétien. Et chacun est ainsi, j'allais dire, naturellement à sa place et aussi jouit alors de la relation dans un cadre bien plus élevé. Le conjoint que Dieu m'a donné, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui a part à la vie de Dieu.
Juste, ce qui n'est pas le cas des femmes dans l'islam, elles valent un tiers d'un homme. Mais sinon, justement, dans nos églises, quelle place faisons-nous aux femmes? Est-ce qu'elles ont vraiment la place qu'elles devraient avoir?
Mais il ne faut pas confondre égalité de dignité devant Dieu et responsabilité et rôle. On voit bien dans Éphésiens 5 que l'homme et la femme ont la même égalité aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui soit supérieur intrinsèquement ou en dignité par rapport à l'autre, mais ils ont des rôles différents. Et Éphésiens 5 souligne que le rôle de l'homme, c'est le rôle de Christ serviteur. C'est-à-dire que l'autorité qui est donnée à l'homme n'est pas une autorité pour qu'il déclare « je suis le chef », c'est une autorité de service qui cherche avant tout l'intérêt de l'autre. On retrouve toujours les mêmes lignes de force dans la parole depuis tout le début. Et au fond, la soumission de la femme est, normalement est facile, mais de plus, cette soumission elle est réciproque. Parce qu'il y a toujours le verset qu'on ne lit jamais, qui est juste avant, « Soyez soumis les uns aux autres ». Alors celui-là, on ne le lit jamais. Mais il y est. Et il est juste avant l'exhortation à la soumission de la femme. Donc ça veut dire que même dans ce domaine, il y a une soumission réciproque, même si, je répète, les rôles sont différents. Mais on voit que l'idée de Dieu, c'est que tout ce que nous faisons, que homme ou femme, dans notre constitution physique différente, doit viser à deux choses. Respecter la dignité, l'image de Dieu qui est dans l'autre et honorer Dieu à travers cela. C'est relativement simple, mais c'est tellement élevé et tellement grand. Et en ce qui concerne l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est vrai, il y a la polygamie, il y a toutes ces chutes, mais quand même, Dieu appelle Abraham à sortir d'un milieu où il y a une grande perversion sexuelle. C'est pas un hasard. Et si après, ça repart dans le mauvais sens,
Que vient nous dire le livre de l'Exode? Le livre de l'Exode est plein d'exhortations pratiques en disant vous ne devez pas faire ça. Si vous faites ça, vous allez, vous devez ensuite payer ceci ou cela. Si un homme couche avec une femme, si... Parce que Dieu recadre en permanence pour son peuple quelle est la bonne conduite. Alors le peuple, au fur et à mesure que le temps passe, s'en éloigne, c'est une évidence. Mais il me semble que d'une certaine manière, la polygamie, elle est déjà condamnée dans le livre de l'Exode et dans le livre du Lévitique. D'une façon, Dieu reprend en disant, attendez, vous avez fait ça, mais normalement, la règle, elle est là. Et dans le Nouveau Testament, il suffit d'aller aux premières pages du Nouveau Testament, au sermon sur la montagne, pour voir la différence. Vous ne commettez pas adultère quand vous couchez avec un homme ou une femme, vous commettez adultère dans votre cœur. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, la barre est placée aux intentions du cœur, à ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est là que naissent les mauvais désirs, qui peuvent être convoitises. Job, au fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a gardé ses yeux, mais ce n'est pas qu'il a fermé les yeux pour ne pas voir. Mais il a arrêté en son cœur de ne pas convoiter. Il n'est pas interdit de regarder un homme ou une femme. Convoiter est une autre démarche. Et ce qui est frappant, c'est que le Nouveau Testament place là-bas en disant qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Alors c'est vrai pour le domaine sexuel, c'est vrai pour tout le reste. La médisance, l'orgueil, c'est pas mieux devant Dieu que le péché sexuel. Il faut le dire aussi. Et toutes ces choses viennent du cœur, c'est-à-dire c'est la source. Le Seigneur, au sermon sur la montagne, il va à la source. En disant qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez être chrétien ou vous voulez pas être chrétien? Alors si vous êtes chrétien, vous ne faites pas ça. Et c'est là pour ça que ce sermon sur la montagne est si, d'une certaine manière, si difficile et douloureux pour nous.
J'ajouterai simplement ce fait que si l'homme a accentué ces différences entre l'homme et la femme, et si la femme a souvent été considérée comme presque un objet, et en particulier dans certaines religions, c'est quand même remarquable de voir que, dans un sens, Dieu a peut-être prévu un peu cela, si je peux m'exprimer comme ça, parce que on voit nombre de femmes qui ont été mises en évidence dans l'Écriture et qui ont été particulièrement bénies parce qu'elles sont restées à la place que Dieu leur avait donnée. Je le dis là, je te le dis déjà ici, mais j'ai toujours été frappé de voir dans les Évangiles, par exemple, que les grandes révélations de l'ère chrétienne sont données à deux femmes. Que ce soit concernant l'adoration, que ce soit concernant les nouvelles relations avec Dieu comme Père. C'est remarquable, Dieu ne s'est pas servi des disciples pour annoncer cela, il s'est servi de femmes tout à fait simples, et plus que cela, même d'une femme adultère. C'est quelque chose qui doit nous montrer, n'est-ce pas, que Dieu, s'il a réservé une place particulière à la femme et à l'homme, eh bien, il veut le bien des uns et des autres.